Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Direction la Croisette dans un instant où entre aujourd'hui en compétition le premier film français Maloute de Bruno Dumont avec Fabrice Luchini. Vous entendrez l'acteur au micro de Stéphane Boutsock. Dans les Express de Cannes, Anthony Martin a rencontré en exclusivité pour Laissez-vous tenter Justin Timberlake. L'artiste américain prête sa voix au film d'animation Trolls. Julien Fautra, lui, a assisté hier soir au cinéma de la plage à la projection de Purple Rain en hommage à Prince. L'événement musical de ce vendredi, c'est la sortie du 4e album de Christophe Maé, L'Attrape Rêve, le plus abouti du chanteur, nous dira Steven Bellery qui a recueilli ses confidences. Nous vous le ferons gagner au 3210, enfin musique encore, puisque nous rejoindrons Laurent Marsic à Stockholm à la veille du concours de l'Eurovision où la France sera représentée par Amir et sa chanson « J'ai cherché ».
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL.
Cannes 2016.
Allez, on part pour notre rendez-vous canois avec nos envoyés spéciaux sur la Croisette, Anthony Martin, Julien Fautra et Stéphane Boutsock. Bonjour.
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 Oh, c'est beau ça. Stéphane, je commence avec vous. Dites-moi, oui. Elle était tout à fait sublime, hein, notre amie.
Vu, hein.
Oh là là, Julia Roberts hier soir pour sa première montée des marches.
Hein. Ah oui, une vraie star hollywoodienne, robe noire, décolleté, dénudée sur les épaules, pieds nus qui n'arrive jamais sur le tapis rouge, émeraude de 528 carats en pendentif. Et puis, puisqu'elle disait le redouter hier matin dans Laissez-vous tenter, eh ben non, on a vu, elle n'est pas tombée.
Bah tant mieux.
Bravo.
Oui, bravo. Voilà pour la soirée de gala autour du film Money Monster. Place à la compétition ce vendredi avec deux films en lice, dont celui qui vous nous dites, va beaucoup faire causer Maloute de Bruno Dumont avec Fabrice Luchini.
Ouais, c'est une dinguerie qui nous ramène en 1910 sur les plages du Nord-Pas-de-Calais avant que ça ne devienne les Hauts-de-France pour une fable barrée onirique sociale autour d'une famille d'industriels version fin de race, incestueux, décadents, qui vont se confronter à des miséreux chargés de porter les riches à travers les marais, mais qui se venge un petit peu en les boulotant, si vous voulez. Oui. Alors, on y croise des tronches d'acteurs amateurs, ceux que Dumont avait utilisés dans la série Petit Quinquin.
Oui, mais qui avait aussi tellement plu à Isabelle Morini-Bosse.
Ouais. Exactement. Mais aussi Juliette Binoche, Valeria Bruni-Tedeschi, et donc Luchini, bien embêté au début quand il a reçu le scénario.
Quand il a commencé à m'expliquer son histoire, je me suis dit, bon, on va s'arrêter là tout de suite, parce que alors là, tout ce qu'il me demande de jouer un décadent, un bourgeois, snob, bête, que décadent, fin de race, je me suis dit, il n'y a pas tout ça en magasin, je veux bien être un peu décadent, un peu snob, tout ce qu'il veut. Enfin, c'est très compliqué de travailler avec Dumont. Il veut pas du tout que l'acteur arrive avec son, allez, on va dire un mot anglais, background. Enfin, il veut pas reconnaître l'acteur. Enfin, bon, j'ai dit, on s'arrête. Et il a quand même réussi à me dire, on va changer d'option. Tu vas pas lire le scénario, tu vas marcher comme Aldo Macione, est-ce que tu acceptes ça ? Moi, je dis, s'il y a que ça à faire, moi je veux bien. Et puis là, on m'a mis un costume, puis le costume a fait le reste.
Alors, il n'y a pas que le costume, honnêtement. Il y a une perruque, il y a des favoris, il y a une diction très particulière qui donne un personnage éblouissant, un rôle à la mesure de la démesure du comédien. Alors ne vous attendez pas, attention, à retrouver l'acteur qu'on aime voir parce qu'il fait du Luchini. Dumont, là, on est ailleurs.
Quand on tourne avec Dumont, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule. Faut pas avoir peur d'être mauvais. Peut-être que les gens vont trouver ça catastrophique. En tout cas, l'acteur qui veut être bon, juste et pas ridicule, faut pas qu'il aille chez Dumont. Dumont, il outre. Dumont, il détruit. Dumont, il veut pas voir les gens tels qu'ils sont. Il dit que les acteurs sont l'aristocratie. Entre guillemets, dans l'aristocratie, lui, il est fils de Toubib, mais moi, je suis fils d'émigrés italiens qui vendaient des fruits et légumes à la goutte d'or. Donc, je lui ai dit, dis donc, le vrai fils de prolo, c'est pas toi, c'est moi. Commence pas à dire qu'on est l'aristocratie nantie du cinéma. Évidemment qu'on gagne mieux notre vie que la moyenne des Français. Valéria, Juliette et moi, il nous prend parce qu'il joue sur le fait qu'on est des nantis. Des nantis, et puis qui, au bout du compte, sont touchants quand même. Les riches sont pathétiques, minables, mais finalement attachants. Les pauvres, au lieu d'être géniaux, comme dans le cinéma de Guéguéguian, où le pauvre aime bien et le riche, hein. Alors là, chez Dumont, il n'y a pas ça. Le pauvre, c'est une ordure, il bouffe les riches. Donc c'est la lutte des classes. Et au milieu, il y a la police qui résout rien.
Voilà. Bah, donc ça m'a l'air gratiné, votre histoire. Alors c'est en tout cas encore une année incroyable pour Fabrice Luchini, non ?
Bah oui, Cannes, aujourd'hui, après un livre de mémoire qui cartonne en librairie, Bernard Lume l'a confirmé, autour des 100 000 exemplaires vendus, une nomination au César, un prix d'interprétation à Venise et 1 million de spectateurs pour le film L'Hermine, et toujours évidemment ce carton au théâtre.
C'est vrai que le théâtre, c'est un peu miraculeux, tu sais. Là, j'ai gardé cette innocence-là. Il y a 700 personnes qui viennent écouter le bateau ivre, j'en reviens pas. Et ça fait pas mal d'années que c'est comme ça. Je sais que des acteurs doivent se dire, oui, il fait la chochotte, c'est vrai. L'Hermine, c'est carrément un miracle. Moi, le vendredi soir, quand je suis rentré de l'avant-première, j'ai senti que ça ferait un succès. J'ai ouvert la télé à 11h moins 10, c'était la guerre à Paris, il y avait le Bataclan. Je me suis dit, on est niqué. Le livre, alors le livre. Si j'en avais vendu 20 000, j'aurais été fou de joie, puisqu'il paraît qu'à 30 000, c'est un succès. C'est alors là, ils m'ont dit, Flammarion, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un très gros succès, votre truc. Alors je me dis, bon, ben voilà. Là, je suis obligé de dire que le patron, c'est le public. Et de repenser à la phrase de ma fille, Emma Lucchini, dès que je fais un média, elle me dit, papa, ne te vante pas, ne te vante pas. Donc, fidèle à ma fille, je ne me vante pas. Voilà. Voilà, mon chéri, t'as une autre question ?
Ben non, j'avais plus rien à lui demander. Alors, allez voir Maloute de Bruno Dumont avec Lucchini. Le film sort partout aujourd'hui en France. Deuxième film du jour en compétition. Moi, Daniel Blake de Ken Loach, chronique sociale, un petit peu trop naïve à mon goût, mais très sincère, qui dénonce l'absurdité et l'inhumanité du système d'indemnisation des chômeurs en Grande-Bretagne.
Grand merci, Stéphane.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express de Cannes.
Et pendant toute la durée des festivités, on vous retrouve également en direct de Cannes. Anthony Martin, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Alors, une semaine après avoir dévoilé sa nouvelle chanson « We Can't Stop the Feeling », Justin Timberlake était de passage sur la croisette.
Oui, pour dévoiler en avant-première mondiale les images des Trolls, le prochain film des studios DreamWorks. On découvrira ça en octobre dans les salles. Un film dans lequel, bien sûr, il a le troll principal.
Bravo.
Oui, merci, je l'ai travaillé longtemps.
On démarre les grosses têtes le matin, nous, à 9h07.
Oui, on est cohérent. Ce qu'on a vu, promet, c'est très réussi et cette chanson fait partie de la bande originale du film d'animation qui aura la particularité d'être très musicale. Voilà, Justin Timberlake qui a fait du bateau hier au large de Cannes, puis une fois revenu sur la terre ferme, il s'est confié au micro RTL, il nous parle de cette chanson qui a tout d'un tube.
Can't Stop the Feeling. Can't Stop the Feeling a spécialement été écrit pour une scène du film. Tout le casting chante cette version de la chanson, donc il y aura deux versions différentes sur la bande originale. Je trouve que c'est très payant. Quand vous voyez le film et ce que le titre est devenu, ça va être géant.
Dans le film, on vous entend aussi reprendre la chanson de Cyndi Lauper, True Colors. C'est une reprise étonnante. Elle vous plaît, cette chanson ?
Je me souviens l'avoir écoutée étant gamin. Ça fait partie de ces chansons immenses dont on se rappelle, et c'est mon cas. Elle avait déjà été choisie sur ses arrangements. Et c'est une bénédiction pour moi parce que je n'y aurais jamais songé et elle m'a emmené ailleurs. And it sent me on a different path. You is a sad eyes. Don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people.
Alors, très belle reprise de Cyndi Lauper par Justin Timberlake. Il est attendu demain à Stockholm ?
Oui, car il chantera We Can't Stop the Feeling pendant le concours Eurovision de la chanson. Plus de 150 millions de téléspectateurs. Justin Timberlake, pas mécontent de son coup.
Je crois que je suis avant tout excité par le fait qu'il y a là une institution de la culture musicale européenne à laquelle aucun Américain n'a jamais participé. Alors qui sait, peut-être est-ce le début de quelque chose. C'était en tout cas intéressant pour moi d'aller là où aucun Américain n'est allé avant.
Voilà, Justin Timberlake m'a confié.
L'intelligence garçon.
Exactement, il m'a confié qu'il débute tout juste l'écriture de son prochain album. Il attend que l'album sorte pour revenir sur scène.
Et puis on rejoindra dans quelques minutes Laurent Marsic, justement à Stockholm pour mesurer l'ambiance à la veille du concours de l'Eurovision. On termine, Anthony, avec le chiffre du jour.
Oui, 85 euros. Il faut savoir que le nœud papillon est obligatoire pour les messieurs qui assistent à la projection du film du soir au Palais des Festivals. Eh bien, la firme Uber propose aux étourdis qui n'auraient pas leur accessoire un service de livraison express de nœud pap au pied des marches pour 85 euros cette année. On connaissait Uber Pop, Cannes a fait net, donc Uber Pap. Voilà, c'est aussi ça, Cannes.
Voilà, c'est un festival. Merci, Anthony.
Mais je vous en prie.
Julien Fautra, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, avec vous, le buzz du moment. Hein.
Oui, un buzz dont Woody Allen se serait bien passé. Épisode 1, son propre fils, Ronan Farrow, qui relance une vieille polémique. Il publie une tribune dans un très grand journal américain pour dénoncer le silence qui entourerait le passé de son père. Accusation très grave d'agression sexuelle de Woody Allen à l'encontre de sa fille adoptive, Dylan Farrow, lorsqu'elle était enfant. Le réalisateur de 80 ans a répondu qu'il avait déjà tout dit dans cette affaire. Sauf qu'il y a un épisode 2. Nous sommes à la cérémonie d'ouverture, quelques heures seulement après la publication de la chronique dans la presse, le comédien Laurent Lafitte fait une blague sur ce même sujet.
Non, et puis ça fait plaisir que vous soyez en France parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis.
Réponse de Woody Allen, je suis tout à fait favorable à ce qu'un comédien fasse des plaisanteries qu'il a envie de faire, on aurait pu en rester là. Sauf qu'il y a un épisode 3, on sentait que du côté de Woody Allen, on ne voulait surtout pas en rajouter. C'était sans compter sur le clan Roman Polanski qui s'est senti visé par cette blague. Emmanuel Seigné, sa femme, qualifie Laurent Lafitte de pathétique, de gros blaireau, cérémonie vulgaire, médiocre, bref, elle n'est pas contente. Résultat, depuis plusieurs heures, on ne parle plus que de ça et l'adage se vérifie d'année en année à chaque festival, sa polémique.
Bah évidemment. Alerte à Cannes, hein, Pamela Anderson débarque, attention.
Oui, après l'exceptionnelle présence des députés à l'Assemblée nationale le jour où la bimbo est venue défendre son engagement pour les animaux, ce sont cette fois les festivaliers qui vont se précipiter demain sur une plage de la Croisette et j'en serai. Elle va présenter un camion spécialement aménagé pour reproduire les conditions que ressentent les dauphins en captivité. Tiens, à quelques kilomètres à peine du Marineland d'Antibes.
Et ben voilà, c'était un excellent moment que vous nous avez fait passer les uns les autres avec toutes ces informations en provenance de Cannes. Le festival vit sur l'antenne d'RTL, bien entendu, toute la journée, tout le week-end et chaque jour dans Laissez-vous tenter. On se retrouve dans un instant, nous serons avec Isabelle Morini-Bosse pour nos audiences de la télévision ce soir et Christophe Maé.
RTL Matin, Laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Je vais parler comme à l'Olympia, n'est-ce pas, en 1965. Vous êtes en levée de rideau de Christophe Maé, dont on va découvrir l'album dans un instant. Alors, avec nos audiences télévisées.
Croyez bien qu'elle en est heureuse. Eh bien, écoutez, c'est Marseille, le feuilleton TF1 Netflix qui est en tête sur TF1. 5 millions de téléspectateurs. C'est pas un échec, c'est pas un succès, mais les gens savaient qu'ils ne verraient pas la suite de toute façon, donc ils ont un peu déserté. En deuxième position, Scorpion sur M6, près de 3 millions de téléspectateurs et 12% du public. Ça marche pas mal. Et Envoyé spécial, ensuite, moins de 2 500 000 côté TNT. C'est MC avec le film Ghost qui est en tête, mais n'atteint pas le million.
Merci beaucoup Isabelle. Alors on poursuit en musique, se laissez-vous tenter. Avant de partir à Stockholm, l'actu de la semaine, c'est donc le retour de Christophe Maé. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Le chanteur publie aujourd'hui son quatrième album intitulé L'attrape-rêve.
Oui, et c'est le meilleur album de sa discographie. Plus dense, mieux écrit, Christophe Maé garde les fondamentaux de son style, des morceaux solaires, plein de guitares, mais y ajoute un soupçon d'intimité. Premier extrait, la chanson titre inspirée de cet objet de la culture amérindienne, L'attrape-rêve.
Les mauvais rêves que tu en prison ne feront plus de mal à personne. Balance-toi, oui, balance-toi au-dessus de nos nuits. T'es grand comme des tout petits Nikonor. Toi qui traques les rêves, oui, toi qui le sais bien. Comme l'on vit en rêve, comme l'on rêve, on devient. Toi qui traques les rêves, oui, toi qui le sais bien.
L'attrape-rêve, parole de Boris Bergman, dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Seule chanson du disque que Christophe Maé n'a pas coécrite avec Paul École. Ce jeune auteur breton qui avait offert le portrait à Calogero a tapé dans l'oreille de Maé. Ils ont signé à quatre mains 9 morceaux dans lesquels Christophe Maé a voulu pour la première fois se livrer.
J'avais vraiment cette volonté, l'envie de travailler, de partir des textes sur cet album-là, avoir quelque chose de vachement plus personnel, de raconter ce que j'avais dans la tête, sur le cœur, dans les tripes aussi. Je me suis jamais trop étalé, je suis assez pudique. Donc j'avais vraiment besoin de faire ce virage-là, de me poser et de raconter qui j'étais à travers mes chansons. C'est un album, c'est certainement le plus personnel et c'est celui qui reflète au mieux qui je suis, je crois.
Allez, joue, gamin, joue.
Marcel, chanson sur la paternité, un hommage à son deuxième fils.
Alors Christophe Maé dit qu'il a voulu se raconter, de quoi parle-t-il ?
Il fait une demande en mariage à sa compagne, se moque gentiment des Parisiennes, chante son besoin d'être entouré d'amis et évoque la quarantaine, cap qu'il a passé en octobre dernier.
Alors je noie ma peine et ça me fait du bien. Je me retrouve en pleine moitié du chemin. Une vie à moitié pleine, mon verre à moitié plein. J'ai deux fois la vingtaine, j'ai 40 ans.
Ouais, j'ai eu un moment de blues, mais qui n'a pas duré. J'ai pris une telle mûre ce soir-là. Et c'est vrai que quand je fais le bilan, ben, il est plutôt positif. J'ai toujours rêvé d'être musicien. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours dit, je suis musicien et je resterai musicien quoi qu'il arrive. Quand je suis parti de chez mes parents, j'avais 18 ans, je suis parti du côté de Saint-Tropez faire la Manche parce que je me disais que là-bas, je pouvais croiser des gens du métier. Ça a commencé comme ça, ça s'est pas passé de suite. J'ai croisé Dovatia 10 ans après. Et depuis, ça n'a jamais cessé. La chance de pouvoir rencontrer un public, parce qu'elle est plutôt belle l'histoire.
Ce soir je noie ma peine, et ça me fait du bien. Je me retrouve en pleine, moitié du chemin. Une vie à moitié pleine, mon verre à moitié plein. J'ai deux fois la vingtaine, j'ai 40 ans demain.
Autre chanson confidence dans ce nouvel album de Christophe Maé, Il est où le bonheur ?
C'est une prise de conscience, cette chanson, face au bonheur. J'ai écrit cette chanson-là après ma tournée, où je venais de croiser 500 000 personnes, un rythme hyper intense, et je me retrouve à la maison, et je suis dans mon bain, ça va pas. C'est le trop vide après le trop plein, quoi. Pourtant, tout le monde va bien à la maison, j'ai la santé, mais j'ai pas le moral, parce que voilà, je suis dans mon bain. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai plus d'eau dans la tronche que dans la baignoire, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai le blues. Et il me vient ces premières phrases-là. Mais putain, mais il est où le bonheur ? Et j'en fais une chanson. Je zigzague dans mes humeurs, je suis pas quelqu'un de constant. Quand j'écris le bonheur, c'est que je suis pas le plus doué pour le bonheur. Je le sais, faut que je me mette un coup de pied au cul, faut que j'aille faire du sport, faut que je me bouge, parce que c'est pas un truc que j'ai naturellement, quoi.
Christophe Maé s'est impliqué comme jamais. Il a co-réalisé le disque, surveillé le mixage, un an et demi de travail dans son petit studio. Le chanteur fait des allers-retours en fait entre sa maison du Sud et son petit appartement près de la Bastille à Paris, un moyen pour lui d'avoir un équilibre. « Je suis un mec normal, j'ai une vie ordinaire », me disait-il. Et c'est donc sans vouloir donner de leçons qu'il met en musique la crise des migrants. La chanson s'appelle « Lampedusa », nom de cette île italienne où débarquent de nombreux réfugiés.
C'est pas vraiment que je m'engage, mais c'est un constat. Des images qui nous frappent, que tout le monde a vues, ça me flingue la tête, quoi. Je me dis, c'est pas possible d'avoir une vie comme ça, d'avoir une telle destinée. Tu peux pas rester insensible, indifférent face à ça. Je suis un capteur d'émotions. Voilà, je suis une éponge. Je le dis à ma manière, quoi. J'ai pas de solution, moi, là-dedans. Des gens qui nous gouvernent ne les trouvent pas, les solutions. Moi, Christophe Maé, je vais vous trouver la solution. Je préfère rester dans mon registre. Ce que je sais faire, moi, c'est mettre mes émotions dans mes chansons. Et jusque-là, je crois que je suis à ma place et j'essaie de le faire au mieux, en tous les cas.
Alors Christophe Maé dévoile aussi une autre facette de son chant dans ce disque, oui, Steven.
Plus trébuchant, scandé, découpé, démonstration avec la chanson Californie.
Qui ne rêve pas de 4x4 Cadillac en Californie, fumer des Havanas sans Havaianas, les poches bien fournies.
J'avais vraiment envie de laisser le pouvoir aux mots. Et le fait de déchanter, de poser juste l'accent sur ce que je raconte, forcément que j'ai moins ressenti le besoin d'aller dans les aigus, chercher des notes à tout va, d'être vraiment sur le flow. J'ai énormément écouté des hip-hop ces derniers temps. Il y a 5-6 ans, j'avais sollicité Jams. Il y a des phrases hyper efficaces, quoi. Mais une écriture simple. Et c'est vrai que dans l'urbain, il y a quelque chose qui me parle. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus incisif, cash, franc. Et c'est aussi ma manière de parler.
La Trafrève, le nouvel album de Christophe Maé sort aujourd'hui. Nouvelle tournée à partir du 10 novembre. D'abord dans des toutes petites salles. Il va retourner à l'Élysée-Montmartre où il avait fait ses débuts, par exemple à Paris. Ce sera le 26 novembre. Et tournée des Zéniths dès le 2 mars 2017. Concert dans le grand studio RTL, 28 mai, 15h.
Et tout à l'heure à 11h, Christophe Maé sera d'ailleurs l'invité de Stéphane Bern pour parler évidemment de son nouvel album.
Et il chantera en live, Il est où le bonheur ?
Ben voilà, j'allais vous dire, je pense qu'il va venir avec sa guitare. Alors ce matin, nous vous faisons gagner le nouvel album de Christophe Maé. Pour cela, il faut répondre au 3210 à la question que vous pose tout de suite.
Il en a fait une chanson. Quel âge Christophe Maé vient-il d'avoir ?
Réponse au 3210. Merci beaucoup Steven Bellery. Une pause et on rejoint Laurent Marsic en direct de Stockholm puisque l'Eurovision, c'est demain.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Madame, Monsieur, bonsoir. Pour terminer, direction Stockholm, en Suède, où se déroulera demain la grande finale du 61e concours de l'Eurovision. Bon, je suis beaucoup moins drôle que Laurent Gérard, mais sur place, on retrouve un autre Laurent, c'est Marsic. Bonjour Laurent.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Salut Laurent.
Il est tombé de sa chaise.
Eh ben oui. Alors il y aura certes Justin Timberlake qui viendra chanter, nous l'avons dit, mais il y aura aussi et surtout le champion français Amir. Quand je dis champion, c'est vraiment le bon qualificatif. Hein.
Oui, complètement Yves. D'abord parce que sa préparation est digne de celle d'un sportif de haut niveau. Il ne fume pas, ne boit pas d'alcool, ne consomme pas de lait aussi. Il paraît que ça donne de l'acidité sur les cordes vocales. Et surtout, il se préserve. Pas de sortie le soir. Et Dieu sait si l'Eurovision, c'est une fête permanente. Hein. Répétition tout le temps avec Pierre-Yves Duchesne, son coach vocal et ses choristes. Répétition dans un couloir, tiens, du dernier étage de l'hôtel où loge la délégation française. J'y ai glissé un micro, écoutez.
J'ai l'impression que tu compresses un tout petit peu. Tu actives ta pédale de compression ou pas du tout?
Oui, mais...
Refais-le avec cette envie de ne pas taper sur ta voix.
Oui.
Amir, qui a toutes les raisons d'y croire, même s'il garde la tête sur les épaules.
Le niveau du concours est très haut, donc on ne peut pas se permettre de laisser quoi que ce soit au hasard. On révise, on reprend, on répète. Et après, peut-être qu'après, en descendant de scène, je me dirais si la prestation était bonne. Imaginons à quoi va ressembler une victoire. Mais pour l'instant, pas encore. C'est loin, quoi.
Alors, ce sont donc les autres hein, qui y croient pour lui. Les autres, c'est-à-dire les fans. Et pas seulement les fans français, semble-t-il.
Exactement, on a l'impression de voir une rockstar quand on se promène avec lui. Autographe par exemple avec les fans suédois, ils sont très fans des Suédois. Ils adorent Amir, interview, ici la BBC, là les Espagnols, les Allemands, les Belges. Le Daily Telegraph a même titré hier « Amir le gagnant ». Mais il va falloir assurer, en face il y a notamment le Russe Sergueï Lazarev, mise en scène impeccable, musique efficace, il fait vibrer le public hein, quand il chante, la salle gronde quand elle applaudit par exemple poliment les autres candidats. Lui aussi est donné gagnant. Alors pourquoi a-t-on des raisons d'y croire cette année? Eh bien, j'ai posé la question à Benoît Blazic, c'est le secrétaire d'Eurofan. C'est la communauté officielle des fans de l'Eurovision en Europe, branche française.
On peut terminer dans le top 10, ça sera très bien et ça sera mieux que le bac 10, on va dire. Mais de sentir les gens applaudir le youhou et compagnie, waouh, il y a quelque chose derrière.
Des fans qu'on croise beaucoup en ville et notamment autour d'un temple de l'Eurovision ici en Suède, à Stockholm. C'est un peu le Lourdes hein, de l'Eurovision, c'est le musée ABBA. Alors là, c'est un tourbillon de souvenirs de ce groupe légendaire.
Et dont la carrière a démarré véritablement à l'Eurovision en 1974. Hein, ils l'avaient emporté avec la chanson Waterloo. Vous avez d'ailleurs, Laurent, eu la chance et le privilège de rencontrer un des membres du groupe ABBA, Björn Ulvaeus.
Oui, Björn Ulvaeus, comme vous dites, ex-mari d'Agnetha. Autant vous dire que face à une légende comme ça, vous avez le micro qui tremble et le cœur qui bat un peu plus fort. Je lui ai demandé ce qu'avait représenté pour lui, pour le groupe, pour leur carrière, cette victoire à l'Eurovision en 1974. Et s'il se souvenait de ce moment hein, où ils ont gagné. Écoutez Björn Ulvaeus qui vous répond en suédois.
À cette époque, personne ne voulait écouter de la musique suédoise, chanter en suédois. Donc l'Eurovision était pour nous la seule façon de nous faire connaître au monde et faire connaître ce qu'était la musique suédoise dans les années 70. Donc c'est vrai, on a chanté en anglais parce qu'encore une fois, nous rêvions d'une carrière internationale. Il fallait rayonner au-delà de la Suède. Et puis pour que les gens nous voient, nous remarquent, nous avions trouvé l'idée des costumes. Coloré, très coloré. Il fallait absolument qu'on nous remarque.
Je vous donne une dernière information que nous venons d'avoir à l'instant. Amir passera en 11e position, donc pas très loin de Justin Timberlake. C'est une très bonne nouvelle pour nous, et puis parce que c'est le pic de l'Eurovision hein, à ce moment-là. C'est vraiment la bonne nouvelle de la matinée.
L'Eurovision est donc à suivre sur France 2 samedi soir, présenté par notre ami Stéphane Bern et Marianne James. Merci beaucoup Laurent Marsic. Dans un instant, on se retrouve et vous saurez si vous avez gagné le nouvel album de Christophe Maé intitulé La Trappe Rêve.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvin.
Vas-y, check, mec.
Et avec tout d'abord une petite info, hein, la projection de Purple Rain en hommage à Prince prévue à Cannes et que nous vous avions annoncé tout à l'heure a été annulée à cause du vent. Elle est reprogrammée dimanche soir, je dis bien dimanche soir. Bien entendu, nous vous en reparlerons. Stephen Bellery, ce matin nous faisions gagner le dernier album de Steve, de Christophe Maé.
Moi je chante pas.
C'est mieux.
Ne me perturbez pas, on est en retard. Alors, il en a fait une chanson. Quel âge Christophe Maé vient-il d'avoir?
40 ans.
Merci beaucoup Steven. Merci à toute l'équipe. Passez un excellent week-end à l'écoute de RTL. On va maintenant, bien entendu, retrouver Julien Courbet.